Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire, ce midi, 9e jeu de la francophonie, jour J-3. La cérémonie d'ouverture aura lieu le vendredi 28 juillet de 18h à 20h au stade des Martyrs de Kinshasa. Le gouvernement annonce l'arrivée prochaine de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo. Au Kasaï oriental, le gouverneur de province a été mis en accusation hier lundi par les députés provinciaux après examen et adoption du rapport des commissions d'enquête parlementaire. Patrick Mathias Kabea a donc 24 heures pour déposer sa démission auprès du chef de l'État. L'invité de ce journal est le nouveau directeur général de l'ISC, l'Institut supérieur de commerce ISC Bukavu. Le professeur Kamala Kaoma pense que l'ISC Bukavu a besoin de ses propres bâtiments pour rayonner à la hauteur d'autres institutions publiques de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour, 9e jeu de la francophonie, jour J-3. La cérémonie d'ouverture aura lieu le vendredi 28 juillet de 18h à 20h au stade des Martyrs de Kinshasa. Justement, dans ce stade, les derniers préparatifs sont en cours et se passent dans la discrétion. Les organisateurs veulent que tout soit une surprise totale. Par ailleurs, le gouvernement annonce l'arrivée prochaine de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, de nationalité rwandaise. Écoutons à ce sujet la ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katungufura, au micro de Kelly Nkouté.
La question du jeu de la francophonie, je ne sais pas pourquoi les gens spéculent beaucoup autour de ça. Ce qui est vrai que les jeux de la francophonie, ce sont des jeux les mieux organisés de tous les jeux du monde. Il y a de préalables, il y a de principes.
Elle sera là ou pas, madame?
Elle doit être là, c'est elle la secrétaire générale.
Merci.
C'est elle qui est en train d'organiser avec nous, qui accompagne, qui met des normes. Elle va venir, c'est le jeu de la francophonie, c'est le comité international des jeux finalement qui est en train d'organiser ceci. Donc, venir ici, ce n'est pas question que ça doit se négocier. Elle doit venir. Et si elle peut décider de déléguer quelqu'un d'autre, mais au moins, le pays ne peut pas refuser dans le protocole. Dans ce qui a été déjà prévu, on a émis des invitations et tout le monde, tel que concerné, tel que preneur des décisions ou participant de la manière la plus officielle possible doit être là. On ne voit pas en quoi est-ce que le secrétaire général peut ne pas être là parce que c'est son histoire.
9e jeu de la francophonie toujours, je venais de le signaler, la cérémonie d'ouverture aura lieu le vendredi 28 juillet de 18h à 20h au stade des Martyrs. C'est l'entreprise américaine PRG Production Resource Group qui s'occupe de cette grande activité. Comment se prépare la cérémonie au troisième jour à J-3? Les détails dans ce reportage de Vanessa Kongolo.
Au stade de Martyrs, la préparation de la cérémonie d'ouverture des 9e jeux de la francophonie se passe en toute discrétion. Pas d'accès dans l'enceinte du stade de foot où se déroulera cette cérémonie. Pas d'accès non plus dans les stadiums de basket où se déroulent les répétitions de certains spectacles. Les organisateurs veulent que tout soit une surprise totale. Frédéric Mougin, chargé de projet pour la technique son, lumière et structure au sein de l'entreprise américaine Production Resource Group PRG, rassure.
Tout sera bien, ça va être un grand spectacle, avec un grand spectacle où l'artistique sera à la hauteur de l'événement. Ce sera une très très grande cérémonie avec les moyens ont été mis en conséquence pour qu'il y ait un très très beau spectacle.
Mais qu'est-ce qui est prévu au cours de cette cérémonie?
C'est un secret, on ne peut pas le dire. Parce qu'il faut que ce soit une découverte. Voilà, il faut que ce soit une surprise jusqu'au dernier moment parce que ça va être vraiment un très très grand spectacle. Oui, la Cannes, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, des cérémonies d'ouverture pour les Jeux Olympiques, etc., etc. Vous avez misé très haut, vous avez pris la société qui est vraiment spécialisée dans ce genre d'événement.
L'accès au stade de Martyrs sera gratuit pour la cérémonie d'ouverture. Toutefois, il faut avoir un bracelet d'accès.
Au Kasaï oriental, je le disais au sommaire, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea, est mis en accusation par les députés provinciaux. C'est après l'examen et adoption hier lundi du rapport des commissions d'enquête parlementaire effectuées au mois de juin auprès du gouvernement provincial et des services publics locaux. Patrick Mathias Kabea a donc 24 heures pour déposer sa démission auprès du chef de l'État. Une mise au point est attendue dans les heures qui suivent, affirme pour sa part le gouverneur de province. Des explications avec Esther Ndalafina.
Ce rapport d'enquête parlementaire était assorti de quelques recommandations, dont notamment la mise en accusation du gouverneur de province pour n'avoir pas répondu pendant 30 jours à l'invitation de la commission d'enquête. Cette attitude a été considérée comme outrage à la première institution provinciale. Une autre recommandation est la motion de défiance contre le gouverneur de province pour détournement des deniers publics et des véhicules destinés à la province, la non-exécution du budget et la surfacturation des fonds destinés aux projets de réserve stratégique, pour ne citer que ça. Cette disposition de mise en accusation concerne aussi les ministres provinciaux des Finances et de l'Agriculture pour complicité dans le détournement. Le conseiller chargé des Finances est mis à la disposition de la justice. Sur les 19 députés provinciaux présents à la séance plénière, 17 ont voté pour la mise en accusation du gouverneur. Contacté, Patrick Mathias Kabeya promet de faire une mise au point dans les heures qui viennent. Signalons que la découverte au mois de juin dernier par l'IGF de deux comptes non déclarés par le gouverneur de province a attiré l'attention de plusieurs organisations politiques et non gouvernementales sur la gestion de la province. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Sud Kivu, éviter d'organiser des villes mortes toujours improductives et qui pénalisent inutilement la pauvre population civile locale. Cet appel du maire de la ville d'Uvira, Kizamuato, fait suite à la demande de la nouvelle société civile congolaise d'Uvira à l'observation d'une journée ville morte ce mardi sur la ville et les territoires d'Uvira. C'est en vue de protester contre l'arrivée du ministre national des infrastructures Alexis Guissaro à Uvira. Des détails avec Fiston Goma.
Depuis ce mardi tôt le matin, toutes les activités sont restées paralysées dans la ville. Aucune circulation de véhicules ni motos n'est observée. Commerces, boutiques et même quelques bureaux des officiels sont restés fermés. À certains endroits, des rassemblements de jeunes sont observés le long de la route. Une barricade routière est signalée près du port public de Kalundu. La libre circulation de piétons est respectée. La situation sécuritaire reste pour l'instant calme et aucun incident n'a été signalé. Le maire de la ville d'Uvira, Kizamo Moato, a déploré une entorse administrative sur le non-respect du délai de 48 heures d'information de l'autorité avant l'activité. Une entorse contenue dans une lettre de la nouvelle société civile congolaise qui réclame la réhabilitation des routes dans la ville et les territoires d'Uvira.
Pour moi, cette action n'a pas de raison d'être. Dans leur mémo, il faut demander la construction de la route, alors que cette route, elle est dans sa première phase. Comme partout ailleurs, on doit d'abord commencer par l'étude. Et le ministre des Infrastructures, qui est déjà à Bukavu, a annoncé que la route Uvira Bukavu est dans son programme d'action. Il va revenir pour lancer cette route-là.
Le ministre national des Infrastructures avait annoncé le week-end dernier la réhabilitation de la RN5 entre Nyantende et Kamanyola. Signalons que cette ville morte n'a pas été respectée dans Uvira Territoire et la plaine de la Ruzizi. D'Uvira Fistongo Momayabala, Radio Okapi.
Au nord Kivu, le conflit sanglant à la tête du groupement Munigi en territoire de Niragongo persiste. Encore environ cinq jours après l'installation de M. Amani Kifende à la tête de l'entité, son protagoniste Olivier Kakoti conteste la cérémonie. Dans une déclaration aux médias, son avocat conseil parle d'une violation de la loi dans ce dossier. Il argumente que le litige est encore en examen à la justice. Les points avec Bernard Nyangi.
Après une première cérémonie qui avait été suspendue en janvier 2023, M. Mutumishi Amani Kifende a finalement été installé jeudi 20 juillet 2023 sur la demande du ministre de l'Intérieur et du gouverneur militaire du Nord Kivu. Cependant, par la voix de son avocat conseil, son protagoniste, le député Olivier Kakoti, conteste cette installation et parle d'une violation de procédure. Maître Yannick Ramazani.
Le ministre national avait pris un acte pour stopper l'exécution de l'arrêté que le gouverneur avait pris. Fort malheureusement, le ministre, sans même examiner le fond de ses recours, a donné une lettre pour saluer M. Kifende. Et cela viole massivement les droits de double degré d'un justiciable. Nous interpellons les autorités à veiller sur cette situation. Entre-temps, nous appelons la famille Kakoti de rester calme.
Rappelons que ce conflit de pouvoir entre les familles Bagori Kakoti et Mudei Kifende, à la tête du groupement Munigi, a déjà causé mort d'homme. Entre le 21 et le 22 octobre 2021, deux membres de la famille Kifende, dont Don Sikitu Mudei, qui s'était autoproclamé, avaient été tués. Alors que ce dossier se poursuit encore en justice, les deux corps seraient toujours gardés à la morgue. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
En Ituri, le programme de démobilisation et désarmement est confronté à plusieurs difficultés pour son exécution. Cette structure cite notamment la non-validation du plan d'action opérationnel de la province de l'Ituri par le comité national de pilotage de ce programme, mais aussi le manque des moyens financiers pour la prise en charge des démobilisés installés au site des cantonnements de Diango et d'autres miliciens qui sont prêts à déposer les armes. La coordination provinciale de ce programme l'a dit hier lundi à Bounia au cours d'une rencontre avec la chef de la MONUSCO et d'autres partenaires. De l'État avec Martial Kizabiamungu.
Au cours de cette rencontre qui a réuni tous les partenaires impliqués dans ces programmes de DDRCS à Ituri, certains membres du bureau de coordination provinciale ont exprimé à Bintou Keïta les défis auxquels ils sont confrontés dans la mise en œuvre de toutes les activités prévues pour une bonne exécution de ces programmes. Ils citent entre autres les problèmes d'infrastructure pour accueillir les miliciens et qui déposent les armes et aussi l'accessibilité dans les zones où les groupes armés sont encore actifs pour les sensibiliser à adhérer à ces programmes. Fidèle Trabani, attaché à la section des suivis et évaluations au niveau de PDDRCS à Ituri.
Le plan opérationnel provincial, c'est un document qui nous définit toutes les activités en termes de planification, en termes de stratégie prévue dans ce document. Dès lors que ce document n'est pas encore validé, et donc nous sommes en train de patauger. Donc on n'est pas en train vraiment de travailler comme il se devait parce qu'il n'y a pas une ligne directrice.
Dans son allocution, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a insisté sur la nécessité de renforcer les systèmes de sensibilisation des groupes armés. Elle a promis de transmettre tous ses défis aux autorités de son retour à Kinshasa. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Les provinces du Sud Kivu et du Maniema vont bénéficier de 5 mines industrielles ainsi qu'une fonderie de minéraux appelée 3T, wolframite, coltan et cassitérite. C'est le résultat de la joint venture créée la semaine dernière en présence du président de la République entre la société Emirati Primera Mining Group et la Sakima qui disponibilise les titres miniers. Joseph Kazibaziba, directeur pays en RDC de Primera Mining Group, apporte plus d'éclaircissements sur cette nouvelle joint venture. Il est au micro de Cynthia Bachizina Bizana.
Vous vous souviendrez qu'en 2022, décembre, il y avait eu la signature de la première joint venture qui avait fait naître des sociétés, Primera Gold et Primera Metals. Pour ce qui est des Primera Metals, c'est une autre société qui était prévue et qui était conditionnée par une chaîne d'approvisionnement stable. Cette chaîne d'approvisionnement stable demandait qu'il y ait plusieurs mines industrielles. Primera Metals en elle-même qui mettra en place une fonderie de 3T, donc pour dire trois fonderies, où l'État congolais il a 40%. Pour ça, ce qui a été signé ou ce que vous avez vu, c'est maintenant 3T Mining qui aura beaucoup de permis et ces permis libres de conflits vont être transformés à des mines industrielles. Déjà, les simulations qui ont ou les montages qui sont en train d'être mis en place, on est à 1,9 milliard de dollars. Au-delà de ça, il y a la fonderie en elle-même qui est un minimum de 500 millions de dollars. Ça sera le plus grand en Afrique, celui de Castérite. Et le quatrième au monde après celui de la Chine.
Actualité internationale.
Au moins 34 personnes, dont 10 militaires, ont péri dans des violents incendies survenus dans le nord-est de l'Algérie la nuit de dimanche à hier lundi et toujours en cours, selon un bilan publié par le ministère de l'Intérieur hier lundi soir. En Centrafrique, le porte-parole d'un parti de l'opposition a été finalement libéré hier lundi dans la soirée après avoir été retenu quelques heures au service de renseignement et d'investigation dans le centre de la capitale. Selon la direction de l'URSA, Serge Gba Biombo s'est trouvé à domicile à Bangui lorsque des éléments de la garde présidentielle se sont présentés hier après-midi.
L'invité
de ce journal est le nouveau directeur général de l'Institut supérieur de commerce ISC Bukavu. Le professeur Kamala Kaoma pense que l'ISC a besoin de ses propres bâtiments pour rayonner à la hauteur d'autres institutions publiques de la RDC. Le nouveau DG de l'ISC Bukavu revient aussi sur l'apport des produits de son institution dans les milieux d'affaires commerciales au Sud Kivu. Le professeur Kamala Kaoma s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur le nouveau DG de l'Institut supérieur de commerce de Bukavu, bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors, professeur, qu'est-ce que vous héritez en termes d'infrastructure et en termes de capital humain? Et qu'est-ce que vous pensez pouvoir améliorer en priorité?
Bon, alors, d'entrée de jeu, je vais tout d'abord dire que lorsque on prend les commandes d'une institution d'enseignement et on la trouve existante, c'est-à-dire qu'on part de quelque part. Alors, ce point de départ que nous avons aujourd'hui, c'est un point de départ où nous n'avons que le capital humain. Nous avons un personnel enseignant, un personnel administratif. Nous avons tout le nécessaire pour le fonctionnement, mais nous n'avons pas d'infrastructure. Et donc, l'un des défis à régler dans un premier temps, ce sera justement de voir dans quelle mesure trouver un espace de travail propre à l'institution. Dans un deuxième temps, il me semble que le défi suivant, c'est celui de l'amélioration de la qualité des enseignements, de manière à ce que les produits de l'ISC, qui est un institut de commerce, soient des vrais professionnels, parce que notre pays en a besoin, le monde a besoin des vrais professionnels. Ça, c'est le défi que nous devons nous donner. Et ce n'est pas un défi que je vais dire que moi, je vais relever dans le peu de temps que je peux passer comme chef d'établissement. C'est un défi que je vais embrasser, de manière à pouvoir aussi avoir quelque chose à léguer à ceux qui viendront après moi.
Vous parlez d'une infrastructure qui n'existe pas pour l'ISC. Qu'est-ce que vous attendez des autorités, de la RDC, du ministère en particulier?
Alors, ce problème avait déjà été posé à la tutelle. Ce problème avait déjà été posé même plus haut. En fait, nous attendons des autorités au niveau le plus haut qu'elles nous aident justement à acquérir ce patrimoine immobilier, ce cadre dans lequel nous pouvons fonctionner sans trop de soucis. Mais au-delà de ça, je ne l'ai peut-être pas dit, un deuxième défi, comme on l'a dit tout à l'heure pendant la cérémonie de remise et reprise, c'est l'alignement de tous les agents au paiement de l'État. Il y a des agents qui, jusque-là, ne sont pas encore payés et qui pourtant continuent à venir prester au quotidien. Et donc, c'est la combinaison, c'est justement si on arrive à résoudre ce problème, on mettra les gens, on mettra les travailleurs dans la position telle qu'ils puissent travailler, telle qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et si en plus on a un cadre dans lequel on peut travailler sans trop de soucis, il me semble que non seulement les charges que nous payons en termes de loyer diminueraient, de sorte que ce même montant pourrait être affecté à d'autres choses au sein de l'institution, mais également ce serait bon qu'un cadre de travail soit connu et définitif. Hein, ce n'est pas encore sérieux qu'une institution d'enseignement reste locataire.
Locataire, oui. Est-ce que l'ISC dispose d'un terrain sur lequel il aimerait ériger des bâtiments une fois les moyens disponibles?
Alors, nous disposons d'un terrain. L'ISC dispose d'un terrain à Karale. Et ça peut déjà constituer un premier espace sur lequel les possibilités de construction devraient facilement être valorisées si il plaisait bien à l'autorité de nous les accorder.
Comment on peut appréhender la contribution des étudiants qui sortent de l'ISC dans un milieu comme Bukavu?
Alors, il me semble que nous sommes une économie qui tourne essentiellement autour de la production par des PME, des petites et moyennes entreprises. Et globalement, ces petites unités de production ont besoin d'un personnel hyper qualifié pour pouvoir organiser leur administration, pour pouvoir monter leur plan d'affaires, pour pouvoir gérer le patrimoine qu'elles ont. Et ça, c'est le type de profil que nous donnons aux gens que nous formons à l'ISC. Et donc, l'idée ici, c'est de dire, lorsqu'on a besoin d'experts comptables, lorsqu'on a besoin d'experts en fiscalité, lorsqu'on a besoin des douaniers, qu'on puisse tout d'abord penser à l'ISC Bukavu avant de penser aux autres institutions qui forment des personnes avec le même profil ou avec un profil similaire.
Merci beaucoup, professeur.
Un grand merci.
Le nouveau directeur général de l'Institut supérieur de commerce, ISC Bukavu, était notre invité. Le professeur Kamala Kaoma s'entretenait à Bukavu avec Jean Kassami. Fin de ce journal qui a été supervisé par Martin Sebou-Djangoué et coordonné par Jacques-Yves Molima. Billy Landry Betou et Alain Goy ont assuré la technique. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi.